Emmanuel Dongala, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez donc la sonate à Bridge Tower chez Actes Sud. Alors on va évidemment revenir longuement sur ce roman, sur ce livre. Mais son premier mérite, c'est de nous faire découvrir ce musicien, Bridge Tower, dont moi je n'avais jamais entendu parler. Et j'imagine que je suis loin d'être le seul. Qui est ce Bridge Tower et comment vous l'avez-vous rencontré?
Oui, la sonate à Kreutzer est très célèbre, mais peu de gens savent que ça a été écrit pour Bridge Tower au départ. Et l'histoire, c'est qu'après, il s'est brouillé avec Beethoven pour une femme. Au hasard de mes lectures, j'ai appris que la sonate à Kreutzer...
Donc de Beethoven, bien sûr.
Oui, de Beethoven, n'était pas écrite originellement au départ pour Kreutzer, mais pour... Africain, enfin le fils d'un Africain qui était en Europe. Cela m'a intrigué, mais j'ai retenu l'information parce que juste avant, j'avais lu la sonate à Kreutzer de Tolstoï. Voilà. Tiens, ça fait tilt et je me suis dit, tiens, il faut que je regarde d'un peu plus près. Et j'ai commencé à faire des recherches. Voilà le départ.
Et donc, on découvre que dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, en Europe, il existait de jeunes prodiges, de jeunes musiciens de couleur, donc noirs. C'est ça la grande surprise, j'imagine, et qu'il sera pour la plupart des lecteurs.
Oui, le sujet m'a passionné parce que souvent, quand on parle des noirs ou des métis en Europe, à cette époque-là, on parle des esclaves, des domestiques. Or, il y avait une élite, pas nombreuse, mais une élite quand même africaine et surtout métisse, qui évoluait dans le milieu des élites, des aristocrates, dans les cours européennes.
On connaît par exemple en France, alors là il est davantage connu, le chevalier
Saint-Georges.
De Saint-Georges, bien sûr.
Saint-Georges. Ouais. Il y a aussi Alexandre Dumas. Le père de l'écrivain, oui. Qu'on appelle Alexandre Dumas le père, mais son père, général Dumas, voilà, lui aussi, il était là. Donc oui, il y avait cette catégorie de Noirs qui évoluait dans l'élite européenne et dont on parle très peu, finalement.
Et d'où venait-il d'ailleurs? Alors bon, lui, c'est Georges, Bridge Tower,
oui,
de son
fils,
prénom.
Oui.
Donc évidemment métis, son père est originaire de la Barbade.
Oui.
Et il a épousé une Polonaise. Alors, comment ces Noirs-là, donc, qui étaient évidemment, dont tous les ancêtres étaient des esclaves pour la plupart, comment ont-ils réussi à connaître ces formes d'émancipation?
Pour les métis français, chevaliers de Saint-Georges, Alexandre Dumas, leur père était français, les ont fait venir en France, les a affranchis.
Le fruit de leurs amours avec
des esclaves.
Des esclaves noirs.
Voilà, ils étaient des affranchis. Alors, quant au père de Georges, notre héros, on ne sait pas trop comment il a quitté la Barbade. Il s'est retrouvé en Angleterre et de l'Angleterre, il est parti en Afrique, en Europe centrale, où il a épousé cette Polonaise, ce qui est extraordinaire. Plus extraordinaire encore, il était au palais d'un prince hongrois, austro-hongrois à l'époque, c'était l'Autriche-Hongrie, voilà, qui s'appelait Esterházy.
Le prince Esterházy, oui.
Voilà, il était page, il parlait 5 langues, il était un peu faiseur, un peu... Il se faisait passer pour un prince, vous voyez, c'est le type qui éblouissait la cour. Et il avait cet enfant, et dans cette cour du prince Esterházy, il y avait un grand maître de musique, Haydn.
Haydn.
Voilà, Haydn, le grand Haydn. Et le grand Haydn a donné des leçons à ce garçon de 7 ans, 8 ans, etc. Mais il était très bon et ce père, qui était très... En fait, il courait après la fortune aussi.
Arriviste.
Voilà.
Ambitieux, mais ça peut se comprendre.
C'est vraiment quoi, il dit... Cet enfant, qui était un prodige, c'est à l'époque où justement il y avait un autre prodige, mais il était beaucoup plus âgé, qui s'appelait Mozart.
Qui devient son modèle, bien sûr.
Voilà.
Il se dit, puisqu'il a déjà eu un génie, un enfant génie précoce, je veux faire de Georges mon fils.
Comme le père de Mozart,
Léopold,
a exploité son fils aussi, l'a traîné sur tous les chemins d'Europe pour s'enrichir, en fait. Il a beaucoup exploité son fils, Mozart. Et lui, son modèle, c'était Léopold, et il voulait faire la même chose.
Mais qu'est-ce qu'on sait de... J'imagine qu'il y a, et vous avez dû les utiliser pour écrire ce livre, qu'il y a quantité de témoignages. Cet enfant était vraiment un musicien exceptionnel.
Oui, absolument, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, et je suis même tombé sur une revue qui s'appelle le Mercure de France, d'avril 1789, qui rendait compte du cancer. Ouais.
Parce qu'il arrive, donc, à un moment donné, il quitte la cour du prince Esterhazy. Voilà. Ils arrivent à Paris.
Son père l'amène, voilà.
Oui. Début 1789, quelle année.
Justement, ils sont arrivés en avril 89. Ouais. Et ce qui est très intéressant dans cet article du Mercure de France, c'est qu'à la fin, celui qui l'a rédigé dit, ben voilà, cela donnera à penser à tous ces philosophes qui remettent en cause l'esprit ou l'intelligence de ce qu'ils appelaient de leur race, de la race, c'est-à-dire les Noirs. C'est très intéressant, cet article-là.
Parce qu'on est bien sûr au siècle des Lumières, au moment de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Des droits de l'homme.
Et on peut se dire que la condition, la reconnaissance d'une humanité pour les Noirs va de soi. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous montrez que non, c'est plus complexe que c'est plein d'ambiguïté.
Plein d'ambiguïté. En fait, le siècle des Lumières, plein de paradoxes. Vous prenez un homme comme Voltaire. Tout le monde dit Voltaire, la tolérance, il a défendu les protestants, etc. Mais Voltaire, en fait, il avait un aspect raciste. Il a écrit des trucs très désagréables envers les Noirs et les Juifs, Voltaire. Aujourd'hui, on dirait que c'est de l'antisémitisme. Donc, tous ces grands hommes, ils avaient leur... côté sombre, leur part d'ombre, vous voyez, tous. Mais il y en a quelques-uns, par contre, c'était extraordinaire, qui, eux, prenaient vraiment la défense des Noirs, sans hésiter, comme Olympe de Gouges, Condorcet, voilà. Donc, c'est tout ce monde-là, effervescent, intellectuel. Et n'oubliez pas la science. C'est l'époque où la science aussi commençait à être vraiment quelque chose de très important dans la société.
Alors, notre petit Georges donc poursuit sa carrière à Londres. Bon, malheureusement, on ne peut pas s'attarder sur tous les épisodes. Oui. Georges repart à Vienne.
Oui.
Et surtout, c'est là où il va rencontrer Beethoven.
Voilà.
Et vous dressez, je dois dire, un portrait vraiment étonnant de Ludwig van Beethoven. Je vais juste lire d'ailleurs ce passage, page 298. Un moment gai, jovial et plein d'entrain, puis soudain en rage pour un propos innocents qui lui déplaisaient ou qu'il jugeait inappropriés, avec des explosions de colère, suivies aussitôt de remords qui le poussaient ensuite à écrire des lettres d'excuses. Ainsi était Beethoven. Et un peu plus loin, lors d'une de ses fameuses colères, il dit à un prince donc qui l'accueille, qu'il protège, « Prince, ce que vous l'êtes par le hasard de la naissance, ce que je le suis par moi-même. Des princes, il y en a, il y en aura encore des milliers, il n'y a qu'un seul Beethoven. »
Authentique.
Quel personnage, pas facile.
Ouais,
hein.
Oui, oui, pas facile à vivre. Il se brouillait souvent. Bon, tout le monde connaît la fameuse l'histoire de la symphonie héroïque. Il avait écrit au départ pour Napoléon.
Bonaparte, admire Bonaparte.
Voilà, et quand il apprend que Bonaparte est devenu empereur, quoi, lui aussi, c'est... Et il raye. Et c'est la même chose avec la sonate à Kreutzer.
Il y a une véritable amitié, une admiration réciproque qui se noue au départ entre les deux hommes.
Absolument. On le présente à Beethoven et tout de suite, il y a eu un déclic, un clic, une chimie, quelque chose entre les deux. Et vraiment, pendant ces 3-4 mois, ils étaient tout le temps ensemble. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette rencontre avec Beethoven, cette amitié a duré 3-4 mois. Mais le résultat, c'est ce chef-d'œuvre, la sonate à Kreutzer. Sonata mulatica, c'est le titre original, sonate mulâtre. Et ce que je dis dans le roman, c'est que la sonate a été écrite pour Georges, pour un virtuose, pour un génie.
Ce qui est un cas quasiment unique chez Beethoven.
Absolument.
Et alors, c'est vrai qu'il l'écrit, il la termine dans la nuit qui précède le concert, et encore parce que Georges le presse, lui dit, dis donc, là, on joue demain.
On joue dans deux jours.
Ça s'est passé.
Absolument.
Comme ça.
Et tout ça, c'est authentique. Et Mozart, tout le monde dit, c'est un génie. Hein. Il il a toute la partition en tête et il écrit pratiquement sans rature. Mais Beethoven, c'est tout à fait l'inverse. Il prenait des notes, il écrivait, il retravaillait, il barrait, il revenait. Lui, vraiment, c'est écrire une symphonie, une œuvre, c'est du boulot. Alors là, il a écrit dans la nuit, il a terminé à 4 heures du matin, il n'y avait pas de copiste, il allait réveiller son élève qui s'appelait Ferdinand Ries. Écoute, tu me copies ça. Bon, il n'a copié que très vite la première partie, la deuxième partie, il n'y avait pas eu le temps. Si bien que quand ils ont joué, George Bridgetower lisait la partition par-dessus
l'épaule de Beethoven qui est au piano.
Piano, ouais. Et ils n'avaient jamais répété.
Oui, il la découvre quasiment en direct. C'est là où on voit aussi le talent, le génie de George Bridgetower.
Exactement.
Et puis là, bon, alors on va laisser aussi au lecteur, bien sûr, le plaisir de découvrir les détails. Mais très, très vite, ils vont se fâcher.
Ils sont tellement heureux. Ils disent, on va voir un
c'est
pot,
ça.
Là.
Dans la foulée, ils vont prendre un pot.
Oui, parce que Beethoven était aussi porté sur la bouteille, comme on dit. Il buvait beaucoup. Et donc, ils sont allés dans ce restaurant et tout heureux, ils ont bu, on parle. Et puis, Georges fait allusion à
une jeune femme dont Beethoven est amoureux, Giulietta.
Et
Bridgetower a le malheur de lui dire, écoute, cette fille, je crois qu'elle n'est pas pour toi.
Elle n'est pas pour toi. Alors, il se fâche, tu ne peux pas toucher à ma femme que j'aime.
Colère terrible.
Il s'en va, il vient, il change la dédicace.
Ce nom de Kreutzer, qui était un autre violoniste, grand violoniste de l'époque.
Voilà.
Aujourd'hui, tout le monde le connaît par la sonate, évidemment. Exactement. Son nom qui reste attaché à cette sonate de Beethoven. Voilà. Et ce qui précipite ce pauvre Bridgetower dans les oubliettes de l'histoire.
Absolument.
À quoi ça tient votre livre, du coup, est aussi une réflexion sur nos destinées.
Et en plus, comme Berlioz l'a écrit, Kreutzer n'a jamais joué cette sonate. Il a dit que Beethoven ne connaissait rien à la sonate, que ça valait rien. Il n'a jamais joué.
Du coup, Beethoven a affaire à un ingrat, Il n'en veut pas de cette sonate qui lui est dédicacée.
Oui.
Eh bien, merci en tout cas, Emmanuel Dongala, pour faire surgir de l'oubli ce formidable personnage, et figure historique et artiste, George Bridgetower, qui méritait bien ce bel éclairage.
Merci beaucoup.